Programa especial Día del Libro en Radio Cabrera Pinto.
Buenos días a todos. Hoy, 23 de abril, continuamos con la celebración del Día Internacional del Libro. Una de las actividades más placenteras en las que te cuentan una historia. Hoy, aprovechando este día tan especial, varios miembros de la comunidad educativa están hoy aquí para leernos un relato, un extracto de una novela, de una novela o una historia. Es el turno del profesorado y del alumnado. Recibimos en primer lugar a Patricia Martínez con su relato Cuarto y mitad de Don Quijote. Un aplauso para ella, por favor.
Gracias, chicos. Gracias, gracias. Bueno, esto es un monólogo que escribí el año pasado. Se llama Cuarto y mitad de Don Quijote y empieza así. Qué gran cosa esta de un libro, ¿verdad? A una de pequeña la obligaban a leer libros y cosas que no entendía. El Quijote, la Celestina, el Lazarillo de Tormes. Y me hacen un resumen pa' mañana, nos decía la maestra a grito pelado. Chiquito ladrillo, eso no había Dios que se lo leyera. Pero claro, había que hacerlo obligado. Aunque no entendieras nada, con 11 o 12 años esas lecturas no eran ni son lo más recomendable, entre otras cosas, porque ahora ya nadie habla así a lo antiguo. Después, con 15 o 16 años, te volvían a decir, ¡hay que leerse el Quijote! ¿Otra vez? ¿A ese pobre hombre flaco le voy a coger yo una manía? Mira tú, que ya por entonces yo sabía que quería ser profesora. ¿Quién me mandaría a mí? Pero me metí a profe. Y en esos momentos siempre pensaba, yo no pienso decirle a los chicos míos en clase que se lean el Quijote, ¿qué es esto? ¿Fuerte burrada? Y aún con eso, con los 17 años, yo me había leído el Quijote dos veces. Tanquejica yo, y al final pasé por el aro y me lo leí enterito. No es que no me gustara leer ni la literatura, es que me gustaba elegir lo que yo leía. Años después, y en la universidad, escogí, así como para abrir boca, una carrera de ciencia. ¿En medicina que me metí? Fuerte loca. Mira tú, la que no quería leer ladrillos. ¿No querías caldo? Pues toma dos tazas. Unos pedazos de cachos, de tochos, de apuntes, una cosa exagerada. Anatomía, más de 100 huesos con sus correspondientes inserciones musculares, por lo menos 500. Ahí yo creo que se me perdieron unas cuantas neuronas y ya me quedé media loca. Farmacología, 300 principios activos con sus efectos adversos, sus efectos secundarios, sus indicaciones y contraindicaciones. Vuélvete loca, vuélvete loca. Y me acordaba yo de Don Quijote y pensaba, ese pobre flacucho tenía astenia y anorexia secundaria a demencia profunda con abandono total del contacto con la realidad y creación de una realidad paralela con alucinaciones. Fíjate tú, ya era capaz de diagnosticar a un personaje literario. En la universidad y con 20 años entendía que no me había venido nada mal eso de leer y de estudiar, porque de todo se saca un chiste. Pero mi paso por la ciencia de la sanación y el alivio del dolor se acabó. Sí, me fui ahí escopetada. Chiquito estocho, chiquita cantidad de lectura, que va, quita para allá. Y me fui al rectorado. Toc, toc, ¿se puede? Mire usted, que me cansé de medicina. Y era para ver si me puedo apuntar en otra cosa, así como suavita. Como para no leer mucho, ¿eh? Y muy amablemente, la secretaria, muy simpática, me dijo, mira, meneña, con ese historial que traes tú, solo te puedo ofrecer unas cosas como de carreras de letras. Nos queda cuarto y mitad de química, 200 gramos de tecnología de los alimentos y 150 gramos de farmacia. Y si no, kilos y kilos de filología y filosofía. Yo me quedé así mirándola y le dije, pues póngame una plaza en filología inglesa. Y allá que me fui, toda privada, pensando que eso yo me lo pulía en dos patadas. Que mira tú qué bien, que ya no, que yo estoy entrenada, que ya sé estudiar mucho, que no tengo que coger tantos apuntes. Pues no, toma del frasco, carrasco, por simplona, tuve que leer más que en toda mi vida. Venga literatura, venga libros, venga poesía. Y uno tras otro, 4 años leyendo, un montón. Y Don Quijote se me apareció en sueño. ¡Qué ilusa vuesa merced, que pensasteis siquiera por un momento libraros de semejante tormento y sufrís ahora los rigores del literario discernimiento! ¡Qué susto, por Dios! Pegué un brinco en la cama y lo entendí. Tú eres boba, Patri. Tú no te has dado cuenta de que leer te ha traído cosas bien buenas. Has conocido muchas historias, muchas realidades y muchas explicaciones de la vida misma. Y si Don Quijote cobró vida en tu mente, es porque algún medicamento de todos esos que tú te estudiaste lo devolvió a la vida, ¿no lo ves? Ahí entendí lo que tanto decía un profesor mío de teoría literaria en la universidad. Recuerden que un libro, unos personajes, una historia, solo existen cuando son leídos, no cuando son escritos. Desde entonces me alegré de haber dado vida a tantos y tantos personajes. Chicos, lean de todo, porque es lo único que permite la existencia de la historia de uno mismo. Thank you very much.
A continuación, porque somos un centro en el que nos encantan todas las lenguas, escucharemos un fragmento de Las Mil y Una Noches de manos de Alex, nuestro asistente de lengua francesa durante el curso escolar. Un aplauso para él, por favor.
Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous lire une partie du recueil de textes Les Mille et Une Nuits, qui consiste en une multitude de contes arabes. Je vais vous raconter l'histoire du premier vieillard et de la biche. Ça va comme suit. Cette biche que vous voyez est ma cousine et de plus ma femme. Elle n'avait que 12 ans quand je l'épousais. Nous avons vécu ensemble 30 années sans avoir eu d'enfant. Mais sa stérilité ne m'a point empêché d'avoir pour elle beaucoup de complaisance et d'amitié. Le seul désir d'avoir des enfants me fit acheter une esclave, dont j'eus un fils qui promettait infiniment. Ma femme en conçut de la jalousie, prit en aversion la mère et l'enfant, et cacha si bien ses sentiments que je ne l'ai connu que trop tard. Cependant, mon fils croissait, et il avait déjà 10 ans lorsque je fus obligé de faire un voyage. Avant mon départ, je recommandais à ma femme, dont je ne me défiais point, l'esclave et son fils et la priais d'en avoir soin pendant mon absence, qui dura une année entière. Elle profita de ce temps pour contenter sa haine. Elle s'attacha à la magie, et quand elle en sut assez de cet art diabolique pour exécuter l'horrible dessein qu'elle méditait, la scélérate mena mon fils dans un lieu écarté. Là, par ses enchantements, elle le changea en veau et le donna à mon fermier, avec ordre de le nourrir comme un veau. Elle ne borna point sa fureur à cette abominable action. Elle changea l'esclave en vache et la donna aussi à mon fermier. À mon retour, je lui demandai des nouvelles de la mère et de l'enfant. « Votre esclave est morte, me dit-elle, et pour votre fils, il y a 2 mois que je ne l'ai vu, et je ne sais ce qu'il est devenu. » Je fus touché de la mort de l'esclave, mais comme mon fils n'avait fait que disparaître, je me flattais que je pourrais le revoir bientôt. Néanmoins, 8 mois se passèrent sans qu'il revienne, et je n'en arrivais à aucune nouvelle, lorsque la fête du grand Bayram arriva. Pour la célébrer, je demandai à mon fermier de m'amener une vache la plus grasse pour en faire un sacrifice. La vache qui l'amena était l'esclave elle-même, la malheureuse mère de mon fils. Je la liai et m'apprêtai à la sacrifier. Mais lorsqu'elle fut ses beuglements pitoyables, je m'aperçus qu'il coulait de ses yeux des ruisseaux de larmes. Cela me parut extraordinaire et je me sentais, malgré moi, un mouvement de pitié. Je ne pus me résoudre à la frapper. J'ordonna à mon fermier d'aller m'en prendre une autre. Mais ma femme voulait absolument que je sue cette vache. Je m'approchai de la vache et, combattant la pitié qui en suspendait le sacrifice, j'allais porter le coup mortel. Quand la victime, redoublant ses pleurs et ses beuglements, désarma une seconde fois. Alors je pris le maillet entre les mains du fermier et lui dis « Allez, sacrifiez-la pour moi. » Le fermier, moins pitoyable que moi, la sacrifia, mais en l'écorchant, elle se trouva que les os, quoiqu'elle fût bien grasse. J'en eus un véritable chagrin. Puis, je vis arriver le fermier avec le veau fort gras. Quoique j'ignorasse que ce veau fût mon fils, je ne me lassais pas de sentir émouvoir mes entrailles à sa vue. De son côté, dès qu'il m'aperçut, il fit un si grand effort pour venir à moi qu'il s'en rompit sa corde. Il se jeta à mes pieds, la tête contre terre, comme s'il voulut exciter ma compassion et me conjurer de ne pas avoir la cruauté de lui ôter la vie, en m'avertissant autant plus qu'il lui était possible qu'il était mon fils. Allez, dis-je au fermier, ramenez ce veau chez vous. Ayez-en grand soin et à la place, amenez-moi un autre. Dès que ma femme entendit cela, elle me demanda encore de le tuer. Je ne pus me remédier à le faire et je lui ai dit que je le tuerais l'an prochain. Lorsque j'allais enfoncer le couteau dans la gorge de mon fils et je le vis pleurer, je demandai au fermier de le ramener à la ferme. Le lendemain matin, mon fermier demanda à me parler en particulier. « Écoutez, j'ai une fille qui a quelques connaissances de la magie. Hier, lorsque je ramenais au logis le veau dont vous n'avez pas voulu faire le sacrifice, Je remarquais qu'elle rit en le voyant, et un moment après, elle se mit à pleurer. Je lui demandai pourquoi elle faisait deux choses si contraires. « Mon père, » me répondit-elle, « ce veau que vous ramenez est le fils de notre maître. J'ai ri de joie en le voyant vivant, et j'ai pleuré en me souvenant du sacrifice qu'on fit de sa mère hier. » Ces deux métamorphoses ont été faites par les enchantements de la femme de notre maître, laquelle haïssait la mère et l'enfant. « Voilà ce que m'a dit ma fille, » poursuivit le fermier, « et je viens vous apporter cette nouvelle. Je partis sur le champ avec mon fermier pour parler moi-même à la fille. En arrivant, j'allai d'abord à l'étable où était mon fils. Il ne put répondre à mes embrassements, mais il les reçut d'une manière qui acheva de me persuader qu'il était mon fils. La fille du fermier arriva. « Ma bonne fille, lui dis-je, pouvez-vous rendre à mon fils sa première forme ?»« Oui, je le puis, » me répondit-elle. « Ah, si vous en venez à bout, repris-je, je vous fais maîtresse de tous mes biens. » Alors qu'elle repartit en souriant, « Vous êtes notre maître, et je sais trop bien ce que je vous dois. Mais je vous avertis, je ne puis remettre votre fils dans son premier état qu'à deux conditions. La première, que vous me donniez comme époux votre fils. » Et la seconde, qu'il me sera permis de punir la personne qui l'a changé en veau. Pour la première condition, lui dis-je, je l'accepte de bon cœur. Je dis de plus, je vous promets de vous donner beaucoup de biens, pour vous en particulier, indépendamment de celui que je destine à mon fils. Enfin, vous verrez comment je reconnaîtrai le grand service que vous m'avez rendu. Pour la condition qui regarde ma femme, je veux bien l'accepter encore. Une personne qui a été capable de faire une action si criminelle mérite bien d'être punie. Je vous l'abandonne. Faites-en ce qui vous en plaira. Je vous prie seulement de ne pas lui ôter la vie. Je vais donc, répliqua-t-elle, la traiter de la manière dont elle a traité votre fils. J'y consens, lui repartis-je. Mais rendez-moi mon fils auparavant. Alors cette fille prit un vase plein d'eau et prononça des enchantements. Elle lui lança ensuite le bol d'eau. Et en achevant ces mots, il reprit sa forme. « Mon fils, mon cher fils !» m'écriai-je aussitôt, en l'embrassant avec un transport dont je ne fus pas maître. « C'est Dieu qui nous a envoyé cette fille pour détruire l'horrible charme dont vous étiez environné. Je ne doute pas que par reconnaissance, vous ne vouliez bien la prendre pour femme, et comme je m'y suis engagé. » Il y consentit avec joie. Mais avant qu'il se marie, la jeune fille changea ma femme en biche, et c'est elle que vous voyez ici.